Radio Prague International en français, les informations.
Dobrý den, bonjour à toutes et à tous. Voici les titres. Un mort et plusieurs blessés dans un accident de train mardi soir près de Prague. Le département des soins intensifs de l'hôpital Duherské Hradiště en Moravie fermé à cause d'une épidémie locale de coronavirus. Et puis le Premier ministre Andrej Babiš à nouveau confronté à ses problèmes de conflit d'intérêts. Une collision entre deux trains a fait un mort et blessé grièvement quatre passagers mardi soir entre les communes de Český Brod et Uvalí. C'est à une trentaine de kilomètres environ de la capitale tchèque Prague. Un train régional City Elephant, dont le conducteur est mort, a percuté un train postal qui était à l'arrêt sur la voie. Une trentaine d'autres passagers ont également été légèrement blessés dans l'accident. Mardi dernier, rappelons-le, deux personnes sont mortes dans un accident de train dans la région de Karlovy Vary, près de la frontière avec l'Allemagne. Miloš Jakeš a été enterré mardi à Prague, selon la chaîne CNN Prima News, qui n'a pas précisé la date exacte de son décès. En 1987, Miloš Jakeš avait remplacé le président Gustav Husák à la fonction de secrétaire général du comité central du Parti communiste tchécoslovaque, une fonction qu'il a assumée jusqu'à la révolution de velours de novembre 89. Miloš Jakeš a marqué plusieurs générations avec des discours alambiqués, dont certains passages restent légendaires. À la chute du communisme, l'un des slogans des manifestants était « Jakeš do koše », soit en français « Jakeš à la poubelle ». Je vous le disais en titre, selon le serveur Iroslas de la radio publique tchèque, le Premier ministre Andrej Babiš est bien l'unique récipiendaire des bénéfices réalisés par le groupe Agrofert, un groupe industriel qu'il a fondé puis a placé dans des fonds fiduciaires pour se mettre en conformité avec la loi sur les conflits d'intérêts, une loi explicitement surnommée « Lex Babiš ». Le serveur s'appuie sur des documents issus des statuts de ses fonds et pas encore publiés jusqu'ici. Le premier bénéficiaire est jusqu'à sa mort le fondateur, soit Andrej Babiš. À la fin de l'administration du fonds fiduciaire, l'administrateur remet l'intégralité du patrimoine inclus dans ce fonds aux bénéficiaires. C'est ce qu'on peut lire, entre autres, dans les statuts des deux fonds créés par Andrej Babiš sous les noms de AB Private Trust 1 et 2. Ces deux fonds sont, depuis le début, l'enjeu de débats intenses à Prague et à Bruxelles également sur les conflits d'intérêts potentiels du chef du gouvernement tchèque. Un mot de sport pour vous dire qu'en ce mercredi, Petra Kvitova dispute la finale du tournoi de Berlin sur gazon. C'est en ce moment, et si vous voulez les résultats, c'est sur notre site internet et sur notre compte Twitter dans quelques minutes. Et puis un mot sur la météo pour terminer ce bulletin. Une météo un peu grisaille, la grisaille apparaît dans le ciel tchèque et notamment en ce moment à Prague avec des gouttes de pluie qui sont à prévoir ce mercredi soir et peut-être également jeudi matin. Pour plus d'infos également sur la météo, c'est sur le site radio.cz. Je vous laisse en bonne compagnie avec Anna Kubišta, c'est pour la suite du programme en français de Radio Prague International et donc nos comptes Facebook et Twitter Radio Prague FR pour les infos en continu à toute heure de la journée et de la nuit. Très bonne écoute de la suite du programme.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour à toutes et à tous et merci à Alexis Rosenzweig pour son bulletin d'information. Artisan de la normalisation en Tchécoslovaquie et dernier leader communiste, Miloš Jakeš est mort à l'âge de 97 ans. Nous reviendrons sur le parcours de ce prolétaire qui a accédé à la fin de sa vie à la plus haute fonction de l'État communiste avant d'être balayé par la révolution de velours. Direction ensuite la presqu'île de Kampa à Prague où se déroule le traditionnel marché français du 14 juillet. On évoquera ensuite en deuxième partie d'émission la figure historique du chef de guerre hussite Jan Žižka à l'occasion des 600 ans de la bataille de Vítkov, une des plus grandes victoires des armées réformatrices contre les forces impériales au 15e siècle. Bonne écoute de ce programme. « Il était le dernier leader communiste tchécoslovaque de l'époque précédant la révolution de velours encore en vie, symbole de la normalisation de la Tchécoslovaquie après l'invasion soviétique de 1968 et de l'orthodoxie communiste, renversée par la révolution de velours en 1989 alors qu'il avait accédé à la plus haute fonction de l'État. Miloš Jakeš est mort à l'âge de 97 ans sans avoir jamais renié ses idéaux. Et c'est finalement dans la tradition des régimes communistes du bloc de l'Est qui entretenait le mystère autour de la santé et de la mort de ses dirigeants, qu'est décédé Miloš Jakeš. Mardi, la chaîne privée CNN Prima a en effet annoncé qu'il avait été enterré le jour même, sans que l'on ait su auparavant qu'il était mort le 10 juillet. Né le 12 août 1922 dans la région de Zlín en Moravie du Sud, c'est dans les célèbres usines Batia, symbole de l'entrepreneuriat tchécoslovaque de l'entre-deux-guerres, qu'il commence en tant qu'ouvrier. En 1945, il devient membre du Parti communiste tchécoslovaque et en gravit peu à peu les échelons après l'accession du parti au pouvoir en 1948. Classiquement, comme pour tout fonctionnaire communiste ayant un tant soit peu d'ambition d'évolution interne, Moscou est le passage obligé pour des études et des formations au sein de l'école du parti. Il y croise d'ailleurs en 1955 Alexander Dubček, futur visage de la tentative avortée de réforme du parti et du printemps de Prague en 1968, mais aussi Mikhail Gorbatchev, ce qui l'aidera bien plus tard dans sa carrière. Après l'invasion de la Tchécoslovaquie par les troupes du pacte de Varsovie, en août 1968, il fait partie des dirigeants communistes emmenés manu militari à Moscou, où comme tous les autres, à l'exception de František Kriegel, il signe le protocole entérinant l'aide fraternelle soviétique pour éviter ce que Moscou considère comme une tentative de renverser le régime dans le pays. S'il n'a jamais signé la lettre invitant les troupes soviétiques en Tchécoslovaquie, Miloš Jakeš s'est appliqué à mettre en œuvre la politique de normalisation incarnée par le nouveau dirigeant Gustav Husák. En 1987, Miloš Jakeš remplace ce dernier à la fonction de secrétaire général du comité central du Parti communiste tchécoslovaque, en partie soutenu par Mikhail Gorbatchev, artisan de la perestroïka, qui voit en lui un candidat de compromis. En novembre 1989, sans perspective d'évolution du régime à l'horizon et alors que l'ensemble du bloc de l'Est bouge, les Tchèques font leur révolution de velours. Comme bien d'autres fonctionnaires communistes qui n'ont pas senti le vent tourner, Miloš Jakeš doit quitter ses fonctions. Le prolétaire devenu homme politique est pour les manifestants l'incarnation d'un régime figé dans le temps qu'ils veulent, je cite, « jeter à la poubelle » selon un célèbre slogan de l'époque « Jakeše do koše ». Petr Blažek, historien à l'Institut d'études des régimes totalitaires.
Il a été exclu en décembre 1989 et c'est un moment clé. Jusqu'alors, il n'avait jamais pris position contre les soviétiques. Je pense qu'il considérait novembre 1989 comme une trahison personnelle. Il avait soutenu la perestroïka, au moins en apparence. Mais je pense que Gorbatchev a vite compris que ça avait été une erreur de le choisir, que Miloš Jakeš ne serait pas l'incarnation du changement. Miloš Jakeš est plutôt devenu un symbole de la continuité de la politique de normalisation. Et c'est ça qui, comme pour Erich Honecker en Allemagne, a fait qu'il a très vite perdu ses fonctions en 1989.
Avec deux autres anciens dirigeants communistes, Miloš Jakeš était actuellement poursuivi par la justice, tous étant accusés d'abus de pouvoir en ayant autorisé avant 1989 l'usage d'armes à feu aux gardes-frontières chargés d'empêcher les personnes de fuir la Tchécoslovaquie en franchissant le rideau de fer. Une procédure judiciaire qui évidemment prend fin pour Miloš Jakeš avec sa disparition, mais qui se poursuit pour Lubomír Štrougal et Vratislav Vajnar. S'il y a peu de chances que les accusés se retrouvent réellement derrière les barreaux, notamment en raison de leur âge canonique, ces poursuites, même tardives, ont valeur de symbole pour ceux qui, en Tchéquie, estiment que les anciens dirigeants communistes n'ont pas rendu compte de leurs actes. La 13e édition du marché français à Prague a débuté comme chaque année le 14 juillet, accueillant les curieux avec une variété de produits français présentés par pas moins de 23 exposants. Améline Roussel vous emmène aujourd'hui en balade sur la presqu'île de Kampa où le marché est ouvert jusqu'au 19 juillet.
Présent depuis de longues années dans la capitale tchèque, Grégory Caranza importe des vins de Bordeaux et de Bourgogne et a ouvert plusieurs bars à vins sous l'enseigne chez Greg. Il nous parle plus en détail de son expérience sur le marché.
Alors pour ici me concernant, donc nous on importe plus de 400 sortes de vins. Ici c'est une petite représentation de vins, on a une trentaine, quarantaine de vins. Alors ici ce qui se vend le mieux c'est la Colombelle, donc les vins du sud-ouest. C'est un marché qui est très connu. Bon alors cette année c'est un peu spécial parce qu'après le coronavirus il n'y a quand même pas la même affluence en tourisme. Mais en fait dès ce matin on voit qu'on est quand même plein en fait, donc il y a quand même beaucoup de monde. C'est plutôt... On verra, c'est le premier jour. Il reste encore... C'est sur 6 jours le marché. Donc on verra à la fin du marché comment ça se passe. Mais aujourd'hui, ouais, c'est un bon début. Je pense que on est déjà en été, c'est estival, il fait beau, les gens ont envie de penser à autre chose. Surtout après le coronavirus, en ce moment, c'est envie de faire autre chose. Mais chaque année, c'est toujours plein parce qu'on a des produits régionaux, des produits bons. Des gens qui sont français, qui importent des produits français. Et voilà, ça change. Il y a aussi des marchés italiens, mais en tout cas, je pense que le marché français, ça reste le meilleur marché qui existe sur Paris.
Difficile d'imaginer un marché de produits français sans plusieurs types de vins venus de régions différentes. Un peu plus loin, Laurent Chassin et sa femme, originaires de la région bordelaise, proposent leur vin du château de Croûte, en Gironde. Le marché n'est pas une première pour Laurent Chassin, qui vient ici depuis la première édition qui a eu lieu en 2007 et qui a ses habitudes et ses habitués à Campa. Inquiet face à la situation sanitaire liée au Covid-19, le couple ne savait pas jusqu'à récemment s'il serait présent à Prague.
Si, c'est mon mari qui vit près de Bordeaux et qui vient depuis 13 ans. On s'est connus ici au marché et puis moi, maintenant, j'habite en France. On attendait un petit moment la confirmation si le marché aura lieu. Et par contre, on est super content de pouvoir venir et de faire le marché et voir du monde. Et puis voir comment ça se passe effectivement, parce que pour nous, c'est un petit peu l'inconnu aussi, comment ça va se passer.
De nombreux Tchèques sont évidemment présents, curieux de découvrir ou de redécouvrir la gastronomie française, mais le marché attire aussi des touristes venus d'Allemagne, de Russie ou encore de France. C'est le cas de cet étudiant français à Sciences Po Paris, venu une semaine à Prague pour découvrir la ville. En se promenant dans les rues du vieux quartier, il a décidé d'y faire une halte.
Non, c'est la première fois que je viens à Prague et la première fois que je viens au marché français du coup. J'étais en train de marcher dans la rue et je suis tombé dessus par hasard et c'est marrant de voir côté français à Prague comme ça.
Chaque année, surtout quand le beau temps est au rendez-vous, le marché fait le plein de visiteurs. Organisateur de l'événement, Thomas Bouton est heureux de voir qu'il attire tous les ans de plus en plus de Tchèques qui, selon lui, s'y aventurent pour 3 raisons principales.
Je pense que ce sont des gens qui aiment la France, qui sont francophiles, qui apprécient aussi la gastronomie, donc tout ce qui va autour, qui viennent en profiter. Donc ça se voit, parce que souvent, ils sont devant le podium, ils apprécient la musique et l'atmosphère. Et après, plus on va, j'ai envie de dire, dans l'après-midi, dans la soirée, plus c'est des gens qui ont envie de se retrouver autour d'un verre, dans un événement festif, avec bien sûr de quoi manger, parce qu'on sort tous du bureau ou d'autres activités. Donc on est tous contents de manger quelque chose. Et je pense quand même qu'en fin d'après-midi, ça reste festif.
D'ailleurs, une jeune femme assise à une table pour y déguster un verre de vin indique que c'est la 3e fois qu'elle vient profiter du marché et qu'elle compte y retourner tous les étés. L'atmosphère, la nourriture et le vin, pour elle, c'est le tiercé gagnant de ce rendez-vous du mois de juillet. Animation pour les enfants, concerts et dégustations, il y en a pour tous les goûts, tous les jours, jusqu'à la fin de la semaine.
Après cette petite balade sur la presqu'île de Campa à Prague, direction la colline de Vitkov. Et c'est sur cette colline que se dresse un monument équestre en l'honneur de Jan Žižka, ce chef militaire hussite qui est considéré comme un héros national tchèque. C'est aussi là que le 14 juillet 1420 s'est déroulée une célèbre bataille qui a vu la victoire d'une poignée de combattants hussites menés par le leader historique, donc Jan Žižka, contre les armées impériales du roi Sigismond. Aujourd'hui encore, cependant, cette figure de combattant imbattable qui force admiration ne fait pas l'unanimité. Était-ce un fanatique sanguinaire qui noyait ses ennemis dans le sang ou un combattant de Dieu qui a sacrifié sa vie à la lutte pour la vérité? Dans une biographie monumentale intitulée Jan Žižka, Život a doba husetského válečníka, en français Jan Žižka, la vie et l'époque d'un guerrier hussite, l'historien Petr Čornej brosse un portrait objectif du héros hussite et le replace dans son contexte historique. Václav Richter.
chapitre de l'histoire.
Comment comprendre et expliquer les aspirations et les motivations d'un personnage du Moyen-Âge tardif? L'historien Peter Czerny se rend bien compte des difficultés d'une telle entreprise.
On se dit, je dois comprendre l'homme du XIVe et du XVe siècle, parce qu'autrement je ne serais capable d'en parler. Mais c'est un grand problème, parce qu'évidemment nous ne serons jamais capables de nous glisser dans la peau des acteurs de ces événements historiques. Nous ne serons jamais capables d'effacer cette distance qui nous sépare de ces gens-là. La seule chose que nous pouvons faire, c'est de tenter de nous rapprocher un peu de leur mode de pensée.
Heureusement, l'historiographie dispose quand même d'innombrables textes littéraires de l'époque, de milliers de sermons, de catéchismes. Peter Czerny constate que nous avons beaucoup d'autres sources qui nous renseignent sur la façon de réfléchir des gens du Moyen-Âge et sur leurs valeurs et leurs préférences. Dans la vie de Jan Žižka, il y a des périodes entières dont nous ne savons presque rien ou très peu de choses. Pour reconstituer sa vie sans recourir à la spéculation, l'historien était donc obligé de travailler avec ses sources secondaires qui, heureusement, ne manquent pas. Jan Čorný a également réuni dans son livre de nombreux témoignages des contemporains de Jan Žižka. Il insiste sur l'importance de ces témoins parce que, dans certains cas, ces hommes connaissaient personnellement le guerrier hussite.
Et ces témoins évoquent les traits de son caractère et ses manières. Ils sont unanimes à constater qu'il était audacieux et téméraire, résolu et énergique, acharné et ardent, et sans doute aussi charismatique. Mais personne ne dit qu'il était prudent, pondéré, prévoyant et ouvert au compromis. C'était donc un caractère très énergique.
La date de la naissance du futur héros hussite est incertaine. Il est probablement né autour de 1360. Jan Žižka, petit obéreau du manoir de Trocnov, cherche à améliorer sa situation matérielle, qui est sans doute très modeste. Borgne depuis son adolescence, il se lance dans la carrière militaire et les premières étapes de son existence n'ont rien à voir avec les aspirations d'un combattant de Dieu. Sa trace disparaît et réapparaît fugitivement dans les annales de l'histoire. Nous savons qu'il a été deux fois marié et qu'il avait un frère et une sœur. Mercenaire dans des armées tchèques étrangères, il est aussi pendant un temps chevalier brigand. Et s'il échappe à l'échafaud, c'est seulement parce qu'il est amnistié par le roi Venceslas IV. Au moment où il devient membre de la garde royale, sa personnalité impressionnante commence finalement à émerger des profondeurs du Moyen-Âge. En 1419, lorsque la révolution hussite éclate, il se joint à ce mouvement réformateur et devient un défenseur sans merci de la doctrine de Jan Hus. Peter Czerny s'interroge sur les motifs de son engagement.
Žižka s'est joint au mouvement hussite parce qu'il s'est identifié au programme hussite de rénovation de l'Église et de la société. Et peut-être avait-il encore un motif très personnel de s'assurer le salut, aspiration principale de tout chrétien. Pendant de longues années, il a vécu dans le péché. En tant que soldat, il a tué, il a agi en dehors de la loi. Et en se joignant à la loi de Dieu, il pouvait réparer ses torts. C'était donc peut-être aussi une sorte de pénitence.
Au début de la révolution hussite, il ne reste à Jan Žižka que 5 ans à vivre, mais ce seront des années glorieuses. Il lance un défi aux autorités les plus puissantes du monde médiéval, et notamment au pape et à l'empereur qui déploient en vain tous les moyens possibles pour écraser l'hérésie tchèque. Les défaites honteuses de l'armée impériale, les croisades dispersées, les anathèmes vains se multiplient et les hussites sous la houlette de leur chef borgne sortent toujours victorieux de ces combats, car Jan Žižka s'affirme comme un stratège génial. Petrčane constate que le vieux guerrier avait entre autres un talent d'improvisation.
Žižka se dokázal díky svému temperamentu rychle rozhodovat.
Grâce à son tempérament fougueux, Žižka était capable de prendre des décisions rapides et de trouver des solutions optimales. Il savait profiter de ses longues expériences militaires dans les guerres en Bohême et à l'étranger. Il s'orientait parfaitement sur le terrain et même aveugle ou presque, il savait tirer les conclusions justes des informations de ses conseillers. En tant que commandant, il savait aussi très bien évaluer ses forces et quand il voyait qu'il ne pouvait pas vaincre, il évitait de se battre et se retirait.
Implacable sur le champ de bataille, Žižka ne pardonnait rien, même à ses ennemis vaincus. Les représailles atroces qu'il infligeait, par exemple, aux habitants des villes assiégées ayant osé lui résister, sont décrites avec beaucoup de détails dans des chroniques de l'époque. Selon Petrčane, ces massacres, aussi abominables et intolérables qu'ils puissent nous paraître aujourd'hui, doivent être restitués dans le contexte guerrier du Moyen Âge.
Žižka n'agissait pas comme un criminel de guerre, mais selon les règles militaires en vigueur depuis l'Antiquité. Le conquérant appelle la ville assiégée à rendre les armes et promet de sauver la vie de ses habitants, mais lorsque la ville refuse de se rendre et continue à faire front à l'adversaire et même à l'offenser, celui-ci se croit autorisé à massacrer ses habitants. Ce que nous considérons aujourd'hui comme un crime de guerre n'était pas un crime dans la perception de la guerre de cette époque-là, mais il est vrai que dans ses opérations militaires, Žižka était plus rigoureux que les autres commandants hussites.
À noter que la cruauté de ces représailles est mal vue déjà à l'époque par certains commandants hussites et critiquée entre autres par le penseur et réformateur de l'Église, Petr Chelčický. Quoi qu'il en soit, l'inexorabilité de Jan Žižka en rajoute encore à sa légende de démon sanguinaire abondamment exploité par ses adversaires. Par contre, cette réputation démoniaque a aussi un impact psychologique important car elle sème la terreur sur le champ de bataille et affaiblit d'avance les ennemis des Hussites. Jan Žižka meurt comme il a vécu sur le champ de bataille et parmi ses soldats. Il quitte le monde le 11 octobre 1424, à l'époque où la révolution hussite est loin d'être terminée. La mort du grand commandant est le commencement de sa seconde vie, sa vie posthume. Disparu, il continuera à jouer un rôle important dans l'histoire tchèque et l'aura héroïque qui nimbe son personnage sera exploitée par différents mouvements politiques. Petrčane rappelle que dans l'histoire postérieure, il y a eu deux époques qui lui ont voué un véritable culte. Son héroïsme est célébré à partir de la fin du XVe siècle jusqu'à la défaite des protestants tchèques à la Montagne Blanche en 1620 et puis aussi entre les années 1860 et 1960.
La perception du hussitisme au XIXe et au XXe siècle a fait beaucoup de mal parce que tous les grands mouvements politiques et idéologiques y ont projeté leurs idées. Évidemment, s'il n'y avait pas dans le hussitisme des aspects religieux, nationaux et sociaux, on ne pourrait pas les exploiter de cette manière absolue.
Sociální, tak by to nebylo možné s odstupem času absolutizovat.
Un grand nombre de livres ont été déjà écrits sur Jan Žižka. La valeur de la biographie signée Petrčane réside entre autres dans le fait que l'historien ne brosse pas seulement le portrait du grand commandant, mais aussi de toute son époque. Žižka apparaît dans le livre comme un homme qui, sans être un génie politique, a pourtant été artisan de l'histoire, comme un homme qui a eu la force d'imposer sa volonté au cours des événements historiques. L'auteur ne cache pas les traits sombres et problématiques du personnage de son héros. Il ne veut ni l'idéaliser ni le diaboliser. Son souci d'objectivité est décelable à chaque page. Et pourtant, le lecteur finit par avoir l'impression que, malgré son impartialité, Petrčane éprouve une profonde sympathie pour son héros. C'est comme si le rayonnement charismatique de Jan Žižka, qui galvanisait jadis ses soldats, opérait encore aujourd'hui à travers les siècles.
Voilà, c'est sur cette rediffusion du 8 février 2020 que se termine cette émission. Merci de l'avoir suivi. L'actualité tchèque en français, ça continue sur les réseaux sociaux. Je vous invite à consulter notre page Facebook, mais également notre compte Twitter. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Bon vent et ahoy.